pour tous les amoureux du jazz. Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Dizzy et Bird, une histoire du jazz à eux tout seuls et de vies dissemblables mais parallèles, narrée par Joachim Ernst Behrendt, le célèbre critique dans son grand livre du jazz. C'est dans le célèbre club de jazz new-yorkais, le Mintons, que Charlie Parker et Dizzy Gillespie se retrouvèrent. Charlie Parker et Dizzy Gillespie devinrent inséparables. En 1943, ils jouaient ensemble dans l'orchestre d'Earlines. En 1944, ils étaient aux côtés de Billy Exkin. La même année, ils co-dirigeaient un combo sur la 52e rue qui devint la rue du bop. En 1944, ils enregistrèrent leur premier disque ensemble. Écoutons Earlines. Ce jour-là, il avait autour de son piano Charlie Allen, George Dixon à la trompette, Walter Fuller, trompette vocale, Louis Taylor, William Franklin, Tom Young, trombone, Darnell Howard, clarinette, sax alto et violon, Homer Siméon, clarinette, sax alto et baryton, Cecily Irwin, clarinette, sax ténor, Jimmy Mundy, sax ténor aussi, Lawrence Dixon à la guitare, Quinn Wilson à la basse, Wallace Bishop aux drums, Herb Jeffrey, The Palmer Brothers, vocal. Et c'est pour le morceau Blue. L'orchestre de McShane quitta bientôt New York. Parker les accompagna jusqu'à Détroit. Il était fatigué des arrangements routiniers et il quitta le groupe sans mot dire. Il n'avait jamais beaucoup apprécié les grandes formations. Dizzy, lui, devenait de plus en plus un musicien de big band. Après la Ricks avec Calloway, il travailla dans les big bands de Benny Carter, Charlie Barnett, Lucky Millinder, Earl Hines en 1943, Duke Ellington et Billy Eckstein 1944. Thelonious Monk raconte que le talent et l'autorité de Charlie Parker furent reconnus dès qu'il apparut aux Mintons. Tous ressentaient son génie créatif, car c'est aux Mintons que Charlie Parker et Dizzy Gillespie se retrouvèrent. Un point psychologique, regardez des photos sur lesquelles apparaît Charlie Parker. Vous constaterez qu'il se tient toujours légèrement à l'écart des autres musiciens. Billy Eckstein, lui, se souvient. Dizzy est pareil à un renard, vous savez, c'est l'un des types les plus malins. Sur le plan musical, il sait ce qu'il fait à l'endroit et à l'envers. Il enregistre tout ce qu'il entend, même quand vous avez l'impression qu'il n'y a prêté aucune attention. Après, il rentre chez lui et réfléchit à ce qu'il a entendu. Écoutons Tony Scott. Bird est arrivé un soir et il s'est installé avec Don Byas. Il a joué Cherokee et tout le monde en a été sidéré. Quand Bird et Dizzy fréquentèrent le club La Rue de manière régulière quelques années plus tard, tout le monde fut stupéfait, incapable de jouer comme eux. Bird et Dizzy finirent par enregistrer des disques et alors les gars purent les imiter et élaborer à partir de ça. Tout le monde faisait des expériences vers 1942, mais personne n'avait déjà de style. Bird donna l'impulsion décisive. Écoutons maintenant Leonard Feather. Les fans de Dizzy singeaient sa barbiche, son béret, ses lunettes et même sa démarche. Dizzy a créé à cette époque ce qui allait devenir dans le monde entier la mode bebop. Les fanzines faisaient de la publicité pour les cravates bebop. Charlie Parker avait découvert dans la forme quintette du bebop le type d'instrumentation lui convenant le mieux. Un sax, une trompette et une section rythmique de trois instruments. Le quintet de Charlie Parker devint aussi significatif pour le jazz moderne que le Hot Five de Louis Armstrong l'avait été pour le jazz traditionnel. Au fond de lui, Dizzy est un homme de big band. En 1945, il créa sa première grande formation. Il dirigea des big bands de manière presque permanente de 1946 à 1950. En 1948, il se rendit en Europe avec l'un d'eux. Son concert de Paris, où il rencontra d'ailleurs Panonica de Coniswarter, exerça une influence décisive sur le jazz européen. Il devint bientôt évident que Dizzy Gillespie était à l'époque le musicien du bebop le plus fréquemment cité. Si Parker donna à cette musique ses élans créatifs, Gillespie lui conféra la séduction et la puissance, sans lesquelles elle n'aurait pas conquis le monde. Billy Eckstein dit « Bird fut responsable, plus que tout autre, du jeu du bebop véritable. » Mais Dizzy, lui, permit son implantation. Dizzy Gillespie, « All the things you are ». Thank you. vous avez bien sûr reconnu dans ce morceau Slam Stewart, l'homme qui murmurait à l'oreille de sa contrebasse jusque sur la scène des arènes de Cimiez, de la grande parade du jazz de Nice. Things to Come devint le disque le plus important du big band de Gillespie, une vision apocalyptique des événements à venir. Une masse de lave ardente et bouillonnante, de laquelle émergeaient l'espace de quelques secondes des personnages fantomatiques qui disparaissaient aussitôt après. Mais par-dessus tout, il y avait le son triomphant de la trompette de Dizzy. La musique du chaos, comme disaient certaines personnes à l'époque, mais aussi la musique de la victoire de l'homme sur le chaos. Avec son Charlie Parker Quintet, Bird réalisa les enregistrements combos les plus importants du bebop. Coco, que nous entendrons tout à l'heure, qui se fonde sur les accords de Cherokee, le morceau qui attira l'attention sur lui. Now's the Time, un blues. Chasing the Bird, avec l'intro fugato du trompettiste Miles Davis, qui introduisait ainsi la mode des fugues dans le jazz moderne. Il enregistra aussi Cool Blues avec Errol Garner, alliant l'aspect cool et le blues dans le titre du même morceau. La trompette de Dizzy Gillespie devint la voix la plus claire, la plus claironnante, mais également la plus souple de l'histoire du jazz. Presque toutes les phrases qu'il jouait étaient parfaites, absolument. Le sax alto de Charlie Parker devint la voix la plus expressive du jazz moderne, chaque note émergeant de la tradition du blues, souvent imparfaite, mais toujours issue des profondeurs d'une âme torturée.
Mm-hmm.
Bird devint l'improvisateur et l'homme des chorus par excellence, plus intéressé par le flux des lignes qu'il produisait que par toute autre chose. Parker accueillit dans son quintet un trompettiste de 19 ans, Miles Davis, qui allait devenir le principal improvisateur de la phase suivante du jazz moderne. Parker encouragea Davis, qui avait commencé en imitant Gillespie, et Parker à se trouver un style propre. Dizzy Gillespie s'intéressa de plus en plus à l'aspect percussion du nouveau jazz. Selon les mots de Billy Etzkin, si vous écoutez Dizzy, paraphrasé, vous constaterez qu'il paraphrase la partie de la batterie et de la basse parce que celles-ci correspondent parfaitement à ce qu'il fait. Prenez Dub Bop Tchbam, c'est un morceau pour la batterie. Sald Peanuts en est un autre. Quelques années plus tard, Charlie Parker, alors qu'il était sous contrat avec Norman Granz, enregistra avec l'orchestre de Machito. Les résultats n'étaient guère représentatifs du Bird. La formule de Parker demeurait le quintet, la plus petite formule orchestrale permettant de créer une forme à travers l'exposition du thème, à l'unisson, au début et à la fin, tout en conservant une liberté d'improvisation totale pour le reste. Reprenons les mots de Charlie Parker lui-même. « Je serais heureux si ce que je joue était tout simplement nommé musique. » Dizzy s'intéressait au rythme afro-cubain. Il jouait avec des musiciens de l'orchestre cubain de Machito. En 1947, il engagea dans sa formation le batteur Chano Pozzo, introduisant ainsi dans le jazz moderne une richesse de rythme ouest-africain ancien. Dizzy Gillespie répondit à la question de savoir comment évoluerait le jazz. Il en reviendra probablement à son point de départ, un homme tapant sur un tambour. Voici Dizzy avec When It's Sleepy Time Down South. Arnold Ross est au piano, Joey Benjamin à la basse et Bill Clark est aux drums. Parker déclara un jour « La vie a toujours été cruelle pour les musiciens comme elle l'est aujourd'hui. » On rapporte que sur son lit de mort, Beethoven brandit son poing à la face du monde parce qu'on ne l'avait pas compris. Personne à son époque n'avait compris ce qu'il écrivait, mais c'est ça, la musique. Selon Leonard Feather, Dizzy Gillespie ne s'est jamais pris au sérieux, pas plus que la musique qu'il créait d'ailleurs, contrairement aux multiples musiciens et amoureux de la musique qui consacrent leur temps à tout étudier, discuter et imiter. Leonard Feather poursuit. Les autres musiciens qui prirent part au processus d'incubation de ce qui allait devenir le bop sont morts ou luttent par intermittence contre l'emprise de la drogue. Il semble que Gillespie n'ait jamais souffert d'aucune frustration ni d'aucune névrose majeure. Plus il devenait apparent que Dizzy ne pouvait garder sa grande formation de manière permanente, plus il devint consciemment l'amuseur de sa musique. Il s'efforça, en tant que clown du bebop, de vendre ce qui était par ailleurs invendable. Il était non seulement le meilleur trompettiste de bop, mais encore son principal chanteur. Il conservait toujours une supériorité contrôlée. En 1946, Charlie Parker eut la première dépression importante de sa vie. Elle se produisit pendant l'enregistrement de Loverman dans les studios d'enregistrement de Dial. Lorsque Charlie rentra chez lui après la séance, il mit le feu à sa chambre d'hôtel et se précipita dans le hall, nu et hurlant. Selon Orin Kep News, il ne fait aucun doute que c'était un homme torturé et certains insistent sur sa solitude. Il lui arrivait souvent de passer des nuits blanches, errant sans but dans le métro. En tant que musicien, il ne réussit jamais à se vendre lui et sa musique sur scène. Il se tenait là et jouait sans plus. Charlie Parker, Out of Nowhere. Avec Blue Moon et Dizzy, Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro enregistré et réalisé pour vous par Émilie Glory dans les studios du Rocasse de Radio Grand Ciel.